Louis.
Quelle est la place du reporter sur un terrain de guerre ? Le conflit en Ukraine bénéficie d'une couverture médiatique rare, intense. Les images, sons et textes que ces journalistes nous rapportent rythment notre quotidien. Et leur statut interroge. Les journalistes sont à part sur un terrain de guerre, ni combattants, ni civils totalement comme les autres. Que font-ils là ? Au milieu des bombes et de la souffrance, est-ce qu'ils peuvent devenir des cibles ? Comment assurer leur protection ? Et surtout, que dit le droit international humanitaire sur leur place près du front ?
Le droit international humanitaire aujourd'hui est violé tous les jours.
Que dit le droit international humanitaire à ce sujet ?
Serious violations of international human rights law.
Ça fait partie de leurs obligations. C'est pas optionnel, le droit international humanitaire.
Aujourd'hui, Alexandre Duyck, reporter dans plusieurs zones de guerre, nous raconte son quotidien. Je suis Sophie Bakker et vous écoutez la troisième saison de Clichés, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média.
Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Quand j'étais à l'école primaire, je voulais déjà être journaliste. Et j'ai un souvenir, c'est en cinquième, en histoire géo, on avait un exposé à faire sur un thème libre. Et moi, j'ai fait la guerre du Sinaï entre Israël et l'Égypte. Et la prof était un peu sidérée par mon intérêt à, je sais pas quelle journée en cinquième, à 13 ans, 12 ans, pour un conflit international. Donc ça remonte à longtemps. Et ça m'a toujours intéressé, en fait. Il y a des journalistes qui vous disent « il n'y a que ce qui se passe à l'étranger qui m'intéresse ». Moi, c'est pas mon cas. Ce qui se passe en France m'intéresse tout autant que ce qui se passe loin, à l'autre bout du monde. Donc j'ai pas de complexe de supériorité dans l'information par rapport au fait que ce soit loin ou près. Mais moi, ma conception du journalisme telle que j'ai voulu l'exercer, ça a toujours été le terrain, en fait.
Alexandre commence sa carrière dans une rédaction consacrée au sport, puis dans un large service nommé France, qui lui permet de sillonner le pays en reportage.
Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est la rencontre avec les gens, en fait. Encore une fois, en France ou à l'étranger, j'aime aller voir les gens qui vivent une situation, qu'elle soit dramatique ou pas, d'ailleurs, parce que j'ai pas forcément non plus d'appétence pour des terrains difficiles et la guerre, etc. Donc c'est vraiment ce qui me plaît le plus, moi. C'est vraiment, il se passe quelque chose sur place, j'y vais, je raconte, et puis j'essaie de raconter ça le plus fidèlement possible. Et après un certain nombre d'années, parce qu'il faut quand même de l'expérience pour commencer à partir à l'étranger, j'ai intégré le service étranger, où là je suis resté du coup reporter, et puis on appelle ça grand reporter, enfin c'est une fonction marquée sur une fiche de paye, mais c'était devenu mon métier. Ensuite, en 2010-2011, j'ai intégré le service international du journal du dimanche, et là j'ai commencé par des reportages à l'étranger, tranquille, en Allemagne, je sais pas où, dans des pays frontaliers, etc. Et puis a commencé la révolution en Tunisie. Et là, un ou deux de mes collègues sont partis, et puis après, ça a été à mon tour d'y aller. Je me souviens très bien du jour où mon rédacteur en chef me dit « Bon, ben, tu vois bien comment la Tunisie, c'est en train de tourner. » Et il me dit « Bon, ben, demain ou après-demain, je sais pas quand, ça va être à toi d'y aller. » Et je vous avoue que j'ai eu peur. J'ai eu une boule dans le ventre, parce que on voyait bien comment les choses, effectivement, risquaient de tourner, et toute la violence qui allait arriver. Et comme je n'avais aucune expérience de ce genre de terrain, j'y suis allé, parce que de toute façon, c'était mon métier. Donc j'étais partagé entre une forme réelle d'enthousiasme, j'étais en fait très très content d'aller sur ce genre de terrain et d'histoire, et en même temps, j'avais peur. Et je suis parti en Tunisie au tout début. Et en fait, avec mon collègue photographe, on est arrivé sur place à Tunis, et on ne le savait pas, mais le soir même, l'état d'urgence a été déclaré. Donc on savait bien que ça commençait à être un peu compliqué, mais on savait pas que du coup l'état d'urgence allait être déclaré. Je crois qu'on a pris le dernier avion qui a pu atterrir à Tunis. On s'est retrouvé à Tunis avec la révolution qui a démarré pratiquement du jour au lendemain. Et là, ça a été extrêmement impressionnant, parce que vous retrouvez plongé dans une histoire immédiate. Vraiment, l'histoire se fait sous vos yeux. Et pour un premier reportage chaud à l'étranger, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, en fait. C'est un souvenir extrêmement fort dans ma tête parce qu'on s'est retrouvé dans un grand hôtel où tous les journalistes devaient être. Nous, on n'était pas là au départ et puis on nous a obligés à y aller. Et c'était le dernier hôtel où tous les journalistes étaient, qui était entièrement barricadé. L'entrée était plus possible. Ils mettaient des protections aux fenêtres parce qu'il y avait des tirs sur l'immeuble. Je me souviens d'une collègue journaliste qui était pourtant très expérimentée et qui était en crise de panique, mais de vraie panique comme j'avais jamais vu dans ma vie. En fait, elle tremblait, elle pleurait, elle était en boule dans sa chambre. Et le plus impressionnant, c'était d'être enfermé dans un endroit dont il ne fallait pas sortir et d'entendre les tirs tout autour. Ça, c'était vraiment très très impressionnant. À la fois, les choses se sont calmées et puis ça a de nouveau dégénéré. Et on était dans les rues de Tunis, il y a une grande l'avenue Bourguiba qui est la grande artère du centre de Tunis. Et là, les choses vraiment s'accéléraient d'heure en heure dans cette révolution qui était en marche. Et les forces de police, l'armée tiraient sur les manifestants, d'abord avec des lacrymogènes et puis après avec des balles et avec il y avait les chars, enfin c'était vraiment des scènes de guerre urbaine quoi. Et à un moment, j'ai vraiment eu peur, donc je me suis réfugié sur la terrasse d'un immeuble comme le faisaient tous les habitants et là je pouvais voir les scènes depuis la terrasse à quelques dizaines de mètres au-dessus de la foule et les gens se défendaient comme ils pouvaient. Et au bout d'un moment, on a dû se réfugier dans des rues. Cette grande rue, elle est immense et elle est bordée de rues perpendiculaires partout. Et donc, en fait, nous, les reporters, on se mettait dans les rues perpendiculaires avec les habitants pour ne pas être trop exposés au danger. Mais il y a un jeune photographe qui était là et qui, à un moment, s'est penché pour faire la photo de l'avenue et il s'est pris une grenade en tir réel dans la tête et il est mort. Et c'est la première fois que j'ai pas vu sa mort, mais c'est la première fois que j'étais sur le terrain et qu'il y avait un de mes collègues qui se faisait tuer en fait. Et le journal du dimanche nous avait envoyé là-bas, donc vraiment comme je vous ai dit du jour au lendemain. Et on s'est pointé en pull, en blouson et en t-shirt sur place. Et on était les deux seuls journalistes étrangers sans aucun équipement. Et on faisait un peu des touristes en vrai. Et c'était d'autant plus inquiétant en fait de voir que tous les autres, notamment les anglo-saxons, étaient bardés de gilets pare-balles, de casques, d'équipements vraiment de reporters de guerre. Et donc quand on est rentré à Paris au bout de 15 jours avec mon collègue, on est allé voir la direction, on leur a dit c'est plus possible de partir dans ces conditions-là. On nous a équipés de petits gilets de police qui servaient à rien en fait. Et puis après on a pu acheter des vrais gilets pare-balles avec lesquels on a pu partir sur d'autres reportages.
Alexandre parle là d'une situation qui ne relève pas du droit international humanitaire parce qu'il s'agit de troubles et de tensions internes à un pays. Ce n'est pas le DIH qui s'applique, mais le droit national et les droits humains. Dans un conflit armé, les journalistes sont protégés comme toute personne civile. En effet, comme ils ne prennent pas directement part aux hostilités, ils ne peuvent en aucun cas être pris pour cible. Mais en pratique, les reporters peuvent être visés. Même si c'est interdit par le DIH et dans ces situations de troubles et de tensions internes. C'est ce qu'a vécu Alexandre lors de sa couverture des printemps arabes. Rappelez-vous, c'était dans les années 2010. Les peuples se sont rebellés contre les pouvoirs en place, en Tunisie, en Algérie, en Jordanie, en Égypte, au Yémen, au Bahreïn, en Libye, au Maroc et aussi en Syrie. Des soulèvements populaires couverts par Alexandre.
Quand on est un Européen, on est plutôt en train de se dire les forces de police, a priori, ou les forces militaires sont plutôt là pour me protéger. Même si on a vu dans des manifestations, c'est pas toujours le cas. On m'avait dit, quand tu pars à l'étranger, il faut que tu t'enlèves tes réflexes de Français. C'est-à-dire, en l'occurrence, les forces de police ou les forces militaires ne sont pas forcément là pour te protéger, toi, journaliste. Tu peux plutôt être vu comme un ennemi, comme un gêneur, comme un empêcheur de tourner en rond. Pire, comme celui qui va montrer les violences policières au monde entier et montrer les manifestants qui sont roués de coups, comme je l'ai pu le voir dans les rues de Tunis, par exemple, ou au Caire. Donc c'est ça qu'il faut s'enlever, en fait. Et en réalité, le moindre rapport on a avec eux, le mieux c'est. En Tunisie, j'ai eu aucun contact avec eux parce que, pour moi, ils incarnaient vraiment un danger, en fait. Et les Égyptiens, encore pire. On a eu deux fois des gros problèmes en Égypte lors de deux reportages à cause des policiers, en fait. Une fois, on s'arrête pour prendre de l'essence. On était sur la route entre Le Caire et Alexandrie avec mon collègue photographe. Et on sort de la voiture et je sais plus, on traverse l'avenue pour aller acheter un truc, une bouteille d'eau dans une épicerie. Et on sort de l'épicerie et là il y a une personne qui vient nous parler, on sait pas qui c'est, on comprend rien. Une deuxième, une dixième, une vingtième. Et là on a un mouvement de foule qui se crée autour de nous. Et des gens extrêmement hostiles qui nous hurlent dessus, qui menacent de nous frapper et tout. Et là vous pouvez rien faire en fait, vous pouvez juste essayer de sortir mais on vous bouscule et tout. Et là les policiers arrivent et ils nous prennent avec nous. Et nous on se dit, bon ben tant mieux, ils viennent nous sauver, puis ils vont dormir dans notre voiture et puis on va pouvoir prendre notre plein d'essence et on s'en va. Mais en fait non, ils nous ont arrêtés. Et on s'est retrouvés en prison, mon copain et moi, pendant... Oh, ça n'a pas été terrible, hein, ça a duré 4-5 heures je pense. Mais en étant en prison, on était arrêtés pour je sais pas quoi, intelligence avec l'ennemi ou je sais pas quoi. Et là vous vous dites, mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire que je viens de me faire presque lyncher. Ils arrivent, ils voient très bien ce qui se passe et c'est moi qui me fais arrêter en fait. Et j'étais dans la cellule et j'avais mon téléphone et j'ai pu envoyer des messages à mon chef et à l'ambassade de France au Caire, dont j'avais des contacts, pour leur expliquer où on était, approximativement, ce qui venait de se passer, etc. Et au bout de quelques heures, ben, comme par miracle, quelqu'un est venu nous voir en nous disant « bah c'est bon, les journalistes, vous pouvez repartir ». Notre vie n'a pas été en danger, on n'a pas été molesté par les gens, etc. Mais finalement, c'était les policiers qui étaient le danger.
Ce sont les forces de l'ordre égyptiennes qui arrêtent Alexandre. La situation décrite ici ne relève donc pas du droit international humanitaire. Le DIH s'applique dans un conflit armé international. Alexandre en a couvert plusieurs et il nous explique comment il choisit de se positionner.
Après, ce qu'on va dire dans une zone de conflit, un vrai terrain de guerre, la consigne, que ce soit urbain ou en ce moment ce qui se passe en Ukraine, c'est de jamais être au milieu entre les deux en fait. C'est ça, faut jamais être entre les deux, faut choisir votre camp entre guillemets. Ne pas trop vous exposer et en même temps ne pas faire confiance à des gens en qui vous pourriez avoir confiance, mais en fait, ils sont pas du tout fiables.
Sur le terrain, le danger peut venir de partout. Et Alexandre redoute par exemple les mouvements de foule, quand parfois il se retrouve d'un coup entouré par des dizaines de personnes cernées et qu'une panique peut saisir cette foule rassemblée. En Tunisie, le journaliste a vu des gens mourir ainsi écrasés.
À l'époque, moi, j'ai jamais été formé. Donc, tu pars en Tunisie couvrir la révolution et puis, bon reportage et à bientôt. C'est tout. Je savais pas à quel moment vous décidez de sortir de la zone où les choses se passent, parce qu'à un moment, on appelle ça décrocher. Jusqu'où on peut rester? Est-ce que c'est trop tôt, etc.? Quels signes avant-coureurs vous repérez que les gens vont s'énerver contre vous, par exemple? Est-ce qu'ils sont bienveillants ou est-ce qu'il y a un agité qui va s'en prendre à vous? Je savais pas tout ça en fait, et je l'ai appris en quelques heures et en quelques jours. J'ai appris pas mal de choses sur cet événement de la révolution tunisienne.
Sa place sur le terrain, le journaliste va apprendre petit à petit à la trouver, en reconnaissant les détails qui mènent à une situation tendue, les limites aussi qu'il ne doit pas dépasser. C'est son appréciation personnelle du risque qu'on a voulu ici évoquer. Il prend pour ça l'exemple d'un reportage à Gaza pour nous expliquer comment il évalue les risques sur le terrain.
Ce qui va changer, ce sont effectivement l'accumulation de terrain et d'expérience, où une erreur qu'on a faite tel jour à tel endroit, on la refera pas, parce qu'on devient beaucoup plus, pas paranoïaque, mais on devient beaucoup plus méfiant, beaucoup plus prudent en fait, parce qu'on sait que tout peut tourner à n'importe quel moment. J'ai appris à aller voir des gens ou pas, à se méfier ou pas, à avoir des horaires par exemple, à tel horaire on n'y va pas. Donc je suis allé qu'une seule fois à Gaza, et je suis allé à Gaza un jour où ça se passait bien. Donc il n'y avait pas de conflit, mon reportage ne portait pas du tout sur la guerre entre Gaza et Israël, c'est sur autre chose. Mais à Gaza, bon, vous pouvez jamais savoir si ça va pas mal tourner dans l'heure qui suivent. Pour aller à Gaza, c'est très impressionnant parce que vous passez un couloir interminable. Là encore, il n'y a personne, il n'y a que des caméras partout entre Israël et le territoire. Au retour, notamment, vous êtes dans des galeries, on dirait un peu un film de science-fiction, genre Blade Runner, et il y a des caméras partout, il n'y a pas d'humains, et on vous parle, et vous voyez pas qui vous parle, vous entendez que des voix, et c'est très très impressionnant. Et arrivé à Gaza, donc j'étais tout seul, j'avais pas de traducteur, j'avais personne en fait, et je viens faire mon reportage sur la journée, et il y a un gars qui m'approche dans la rue, et qui me dit, en anglais, vous faites quoi ? À Gaza, vous pouvez pas dire je viens en vacances ou je viens faire du tourisme. Donc soit vous êtes humanitaire, soit vous êtes journaliste, soit vous êtes diplomate. En fait, c'est soit ça. Donc je dis je suis français en fait il me démasque très vite. Il me dit ah vous êtes journaliste et tout. Et je dis bah oui. Et il me dit ça vous intéresse les tunnels entre Gaza et l'Égypte par où les gens passent. Alors moi, je venais pas pour ça. Mais en fait, oui, ça m'intéressait vraiment, en fait. Donc je dis, oui, un peu, et tout. Il me dit, venez avec moi. En anglais, il me dit, venez avec moi. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez ou vous y allez pas? Et ben là, j'y suis allé. Je sais pas. J'ai fait confiance à ce type. Et on rentre dans un immeuble qui fait 6-7 étages et qui était entièrement vide. En fait, c'est un immeuble en travaux, mais qui n'avait pas été terminé, comme il y en a beaucoup par là-bas. Et je suis tout seul avec lui. Et il me dit, venez. Et moi, là, je commence à prendre peur. Je dis, non, c'est bon, en fait, ça m'intéresse pas. Et là, il s'énerve. Il me dit, mais je vais vous montrer un truc. Mais venez, c'est trop bien. Faut que vous voyez ça. Et je dis, non, mais c'est bon, je vais y aller et tout. Et là, il s'énerve. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer le fait qu'il s'énerve? Parce que c'est pas cette colère qui va se retourner contre moi. OK, j'y vais. Donc, on est monté sur la terrasse. Et là, en fait, on avait une vue imprenable sur des gars qui creusaient des tunnels entre Gaza et l'Égypte. Donc, c'était juste quelqu'un de super gentil, en vrai, qui voulait me rendre service, qui avait deviné que j'étais journaliste et qui voulait montrer ce truc. Il m'a montré, j'ai regardé. Bon, en fait, j'en ai rien fait parce que j'avais pas d'appareil photo, je faisais pas un reportage là-dessus, je faisais sur autre chose. Mais en même temps, j'étais mort de trouille, en fait. Je vous avoue que je me disais en montant les escaliers, qui m'attend là-haut? Combien ils sont là-haut? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire prendre en otage? Ce qui était possible. Et puis, rien, en fait. Donc ça, c'était une peur introspective pour rien, mais qui était... Quand j'en ai parlé à des collègues après, ils m'ont dit, mais t'es complètement taré d'avoir fait ça, en fait. T'aurais jamais dû y aller, quoi. Parce qu'il pouvait y avoir un groupe de gars en haut, et là, c'était fini pour toi, quoi.
La notion de risque à prendre est sans cesse évaluée par les reporters, également à distance avec leur rédacteur en chef. Est difficile parfois de faire comprendre le danger alors qu'il faut envoyer vite son reportage, et si possible avec un scoop. Entre eux, les journalistes discutent, se renseignent. Jusqu'où peuvent-ils aller? Quel endroit est devenu trop dangereux? Et pour prendre la bonne décision, ils s'appuient le plus souvent sur des fixeurs. Des locaux qui les aident à trouver les bons contacts, à traduire leurs interviews, et donc aussi à mesurer les risques.
Il faut quand même sortir et aller courir des risques. Toute la limite, et on le voit encore là en Ukraine, et on le voit dans toutes les guerres, toutes les révolutions, c'est qu'il y en a, ils rentrent pas, en fait. Ils se font tuer sur place, quoi. Ou ils se font très, très gravement blessés. À quel moment vous vous dites, ma vie ou ma santé pour le reste de mes jours vaut moins que l'information que je vais ramener? Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Quand j'étais au service international du JDD, par exemple, on m'a proposé d'aller en Syrie. À plusieurs reprises, j'ai toujours refusé. J'ai dit non, la Syrie, j'y vais pas. Les autres pays, je veux bien, mais la Syrie, j'y vais pas. J'ai des collègues qui y sont allés, mes autres collègues grands reporters y sont allés, et moi, je reconnais, j'ai jamais voulu y aller, parce que j'avais trop peur, en fait. Je voulais pas que ma famille, mes enfants, mes filles, voient leur père ou pas à genoux dans le désert, en combinaison orange, sous menace de se faire décapiter, en fait. Ce qui m'a d'autant plus refroidi à l'idée d'aller en Syrie, ce sont des collègues qui, eux, y étaient et qui m'ont raconté, ou que je connais, qui se sont fait prendre en otage et qui racontaient qu'ils se sont fait trahir par leur chauffeur, par leur traducteur, qui eux-mêmes avaient de la famille prise en otage et qui étaient prisonniers de ça, quoi. Et on m'a dit, en fait, dans ces pays-là, vous pouvez faire confiance à personne. La personne avec qui vous auriez déjà travaillé 2-3 fois, le chauffeur que vous connaissez par cœur, qui a été recommandé par tous vos collègues, qui est le plus fiable au monde... Vous pouvez pas savoir si ces enfants sont pas en ce moment détenus par des terroristes et s'il est pas sous la menace qu'on les tue si jamais ils vous livrent pas. Et ça a été une de mes limites, par exemple. Ça, j'ai dit, ça non, je prendrai pas ce risque-là. Je veux pas y aller.
Ce risque, on comprend que les journalistes se retrouvent quasiment seuls à devoir l'estimer pour trancher, savoir où aller, qui interviewer. Et on a aussi compris que dans un pays en guerre, le journaliste n'a pas de statut à part. Mais c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'il se retrouve, comme c'est parfois le cas, en mission avec l'armée. Un statut existe, celui de correspondant de guerre. C'est-à-dire quand des journalistes sont officiellement accrédités par les forces armées qu'ils intègrent temporairement. La distinction entre journaliste et correspondant de guerre est importante, car ces correspondants ont droit au statut de prisonnier de guerre s'ils sont détenus dans le cadre d'un conflit armé international. C'est le cas quand plusieurs pays s'affrontent. Mais une mission d'Alexandre nous permet d'aborder une zone encore grise, pas encore reconnue en DIH. Le statut du journaliste en bed, c'est-à-dire en immersion avec un bataillon de l'armée. Et selon le manuel militaire qui s'applique, le journaliste embedded n'est pas considéré de la même manière. Par exemple, le ministère britannique de la Défense peut accorder aux embedded le statut de prisonnier de guerre s'ils sont détenus. Mais ce n'est pas le cas des autorités militaires françaises qui les considèrent comme unilatéraux, donc comme des civils.
Alors on est en 2012, je crois, et c'est les opérations de retrait des forces militaires françaises d'Afghanistan. Et on me propose d'aller faire ce reportage-là. Ce qui est un reportage qui fait rêver, en fait, quand on est grand reporter. On va aller en Afghanistan, déjà, et on va être avec les militaires français rentrent parce que la mission doit s'arrêter. Là, a priori, la seule faisabilité de la chose, c'était d'être ce qu'on appelle en anglais « embedded », ça veut dire donc « embarqué », d'être avec les forces militaires françaises. Donc là, on est dans un cadre de journaliste qui est un peu plus compliqué parce que on n'a aucune liberté de mouvement, par exemple. Ils viennent vous chercher, ils n'ont juste pas le droit de rentrer dans l'aéroport, je crois. Donc vous traversez l'aéroport, le parking et tout ça à pied. Et puis ben, vous avez un véhicule blindé qui vous attend sur le parking, en gros, sur la route, la rue d'en face. Vous rentrez dedans, ils vous équipent, j'ai les pare-balles, le casque et tout. Vous rentrez là-dedans et à partir du moment où vous êtes là, jusqu'au moment où vous serez de nouveau à l'aéroport au retour, vous êtes embarqué avec l'armée et on vous commande, en réalité. C'est le genre de reportage qui n'est, de mon point de vue, pas faisable tout seul. À la fois pour des questions de danger, c'est-à-dire que il y a, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas plus dangereux presque que Kaboul. Or, moi j'y suis donc allé, vous prenez l'avion, vous changez je ne sais plus où, vous atterrissez à Kaboul, vous sortez de l'aéroport de Kaboul. En réalité, vous faites 30 mètres, il peut y avoir une camionnette qui débarque et on vous embarque et puis c'est fini quoi. Et après, vous arrivez sur place et vous êtes dans la base et ça va se passer là, votre reportage. Et donc je vous disais, à la fois c'est compliqué parce que si vous avez des envies d'aller à tel endroit, vous pouvez pas. Mais en même temps, de toute façon, c'est pas faisable parce que ce serait vraiment suicidaire. Et en même temps, certains journalistes ont quand même fait. Mais moi, j'étais pas forcément apte à faire ça. Et en même temps, vous vous dites, j'ai une chance folle d'assister à ça parce que c'est quand même un moment historique aussi. De mon point de vue, ce serait pas faisable autrement. Donc j'y suis et j'accepte les règles en fait. C'est un deal, voilà. Ce qui est dealé à l'avance, c'est donc vous allez avant ça au ministère de la Défense, vous êtes reçu par des militaires, et ils vous disent « Ok, nous on va vous emmener sur place, enfin on va vous accueillir sur place, vous y allez à vos frais, etc. Arrivé à Kaboul, on sera là pour vous, et vous êtes avec nous du début à la fin, mais en gros vous déconnez pas. C'est-à-dire qu'on vous dit d'aller à gauche, d'aller à gauche, vous allez à droite, vous allez à droite. Vous devenez une sorte de militaire en fait. »
Mais Alexandre tient à le rappeler. Ce contrôle de l'armée se limite à ses déplacements lors de cette mission. Une fois de retour, sain et sauf en France, le journaliste reprend sa liberté.
Il n'y a aucun contrôle de l'armée sur votre texte, sur votre reportage. C'est-à-dire que moi, je rentre, j'écris mon texte, je ne l'envoie surtout pas au ministère de la Défense pour qu'il valide ou pas, quoi. C'est pas une opération de communication pour l'armée. Donc moi, j'ai écrit le texte que j'ai voulu et je n'ai eu aucun contrôle de l'armée en rien sur mon texte. Pas plus que sur les photos du photographe qui était avec moi.
Alexandre Duyck est revenu de toutes ses nombreuses missions sur des terrains de guerre. Si son expérience lui sert de bagage, les temps ont changé. Désormais, les journalistes bénéficient très souvent de formations avant de partir en mission sur le terrain. Preuve, selon lui, que la nature des conflits a évolué.
Alors, si ce qu'on a vu arriver, ce qui n'existait pas il y a peut-être 20 ou 30 ans, et encore que, mais c'est une nouvelle forme de conflit par le terrorisme, avec non plus des champs de bataille bien définis, ça se passe ici, etc., comme on a pu le voir dans des conflits plus anciens. Mais ça peut se passer dans n'importe quelle ville du pays, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quelle rue, et une voiture qui saute, et puis vous êtes là au mauvais moment, quoi. On a pu voir ça à partir des années 80 avec le Liban et les prises d'otages de journalistes, qui n'existaient pas forcément avant, et que les journalistes deviennent des cibles et donc des proies pour des prises d'otages. Ce qu'on a pu voir aussi après, c'est l'accélération de la violence à l'égard des otages. Quand, à l'époque, vous étiez pris en otage, vous n'étiez pas forcément amené à être assassiné dans les heures qui allaient suivre. Donc on a pu voir ça aussi. Donc je pense que de la part de la rédaction, il y a toute cette peur que les choses tournent de façon vraiment dramatique. Et puis après, ce qu'on voit là, par exemple, en Ukraine, je n'aurais pas forcément imaginé il y a un an. C'est-à-dire que imaginer que les immeubles allaient être bombardés avec des gens dedans, j'aurais pas imaginé ça quand j'ai vu ce qui s'est passé à l'époque en 2014, où je pensais qu'on était plutôt sur des cibles stratégiques. Et là, c'est ça qui est le plus affolant. C'est-à-dire qu'il y a des conflits désormais où vous croyez être en sécurité parce que vous êtes dans tel appartement, tel immeuble, tel hôtel. Et puis en fait, ben non, parce qu'il y a des nouvelles armes qui arrivent aussi qui n'existaient pas avant. Vous avez un drone qui arrive et qui, bon, personne ne l'a vu venir et puis il va frapper. C'est aussi tout ça qui va faire que le danger, je pense, effectivement, peut être beaucoup plus présent. Alors je pense que ce qui a changé, déjà, c'est la prise en considération des risques que prennent les reporters. Avec notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les équipements, ne serait-ce que les gilets pare-balles, les casques, les produits à emmener, des formations de premiers secours, etc. Moi, quand je suis parti sur des terrains-là, j'en ai jamais eu de ma vie, en fait. Je savais pas comment faire un garrot, je savais rien faire de tout ça. C'est la Croix-Rouge qui m'a appris à faire ça quand je suis parti pour la Croix-Rouge française en Ukraine en automne, mais j'avais jamais été formé par personne d'autre avant la Croix-Rouge.
Une formation premier secours au siège de la Croix-Rouge française est obligatoire avant sa dernière mission en Ukraine. L'association multiplie les formations à l'égard des journalistes et bien sûr un éventail de formations au DIH. Des connaissances utiles pour mieux comprendre les situations qu'ils doivent raconter et pour éviter de se mettre en danger sur le terrain.
Moi, en tant que journaliste, quand je suis parti sur des terrains comme ça, je n'ai jamais été formé sur le droit international, le droit de la guerre, jamais rien. C'est des choses que j'ai apprises tout seul, en fait. Et oui, ça m'aurait vraiment plu d'avoir des sessions, ne serait-ce que quelques heures, sur ces notions-là. Mais non, j'ai jamais rien eu, en fait. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'en tant que journaliste, vous êtes censé raconter vous-même ce genre de choses et les maîtriser. Donc je les ai maîtrisées par ma propre connaissance et mes propres recherches. Mais dans mon travail, dans le cadre de mon activité professionnelle, je n'ai jamais eu la moindre formation là-dessus. Personne ne m'a jamais informé de ça. Ce qui existe pour les services étrangers, ce sont par exemple des formations un peu commando, où vous allez avec l'armée, notamment du côté de Perpignan, je crois, passer du temps avec des simulations de zones de conflit et où l'armée française va vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire.
Face à la violence et aux dangers qu'ils peuvent rencontrer pendant leur reportage, les journalistes ne sont pas livrés à eux-mêmes. S'ils sont détenus, portés disparus, blessés, le service de presse du Comité international de la Croix-Rouge peut leur venir en aide. À leur entourage aussi, et particulièrement en cas de décès d'un journaliste lors d'un reportage.
Ce qui a changé, c'est aussi... le métier de journaliste est un métier qui est, comme beaucoup d'autres, en précarisation. Et vous avez beaucoup, notamment de jeunes journalistes, qu'on appelle des pigistes, donc c'est-à-dire qu'ils sont payés à la mission, à l'article, et ce que je suis, moi, maintenant redevenu, volontairement. Et on a vu beaucoup, notamment au début de la guerre en Ukraine, l'année passée, partir un peu la fleur au fusil, aller couvrir, comme ils disent, la guerre en Ukraine, sans aucune expérience, sans aucun matériel, sans aucune commande de médias, donc sans aucune garantie que leur travail va être publié, diffusé, qu'ils seront payés, par ailleurs, et partir dans un terrain de guerre épouvantablement dangereux, et pour certains d'entre eux, pour qui ça s'est pas bien passé. Donc on voit ça aussi, et ça c'est vraiment un gros problème en fait. Mais ils le font aussi parce que les rédactions comptent leurs sous en fait, et couvrir des conflits à l'étranger, ou même ne serait-ce qu'aller à l'étranger en fait, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Après, j'aurais pas aimé être reporter de guerre pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale sur les champs de bataille. Mais c'est peut-être ça aussi qui a changé, effectivement, dans une technologie qui est encore plus redoutable et encore plus pernicieuse, peut-être.
Vous venez d'écouter Cliché, une coproduction de la Croix-Rouge française et de Louis Média. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail d'Alexandre Duyck, retrouvez dans les ressources de cet épisode ses reportages pour la Croix-Rouge française en Ukraine. Cet épisode de Cliché a été tourné et écrit par Marion Botorel. Mélodie Ouatté en a fait le montage, Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage. Elsa Berthaud a aidé à la production. À très vite.